Alors, nous lisons chapitre 8, verset 8. Nous avons une petite sœur qui n'a point encore de mamelles. Que ferons-nous de notre sœur le jour où on la recherchera? Si elle est un mur, nous bâtirons sur elle des créneaux d'argent. Si elle est une porte, nous la fermerons avec une planche de cèdre. Je suis un mur, et mes seins sont comme des tours. J'ai été à ses yeux comme celle qui trouve la paix. Salomon avait une vigne à Baal-Hamon. Il remit la vigne à des gardiens. Chacun apportait pour son fruit 1000 cycles d'argent. Ma vigne qui est à moi, je la garde. À toi, Salomon, les 1000 cycles, et 200 à ceux qui gardent le fruit. Habitante des jardins, des amis prêtent l'oreille à ta voix. Daigne me la faire entendre. Fuis, mon bien-aimé, sois semblable à la gazelle ou au fang des biches sur les montagnes des aromates. Eh bien, nous allons méditer cette fin du cantique maintenant. Nous avons une petite sœur. Quelle est cette petite sœur? Une petite sœur qui n'a point encore de mamelles. Elle est donc une enfant encore bien jeune, une petite fille, mettons, et que ferons-nous de notre sœur le jour où on la recherchera? Alors elle est bien jeune, toute petite, et il faut interroger l'avenir à son sujet, parce que un jour viendra où on la recherchera, cette petite sœur. Alors, voyons ce que peut être cette petite sœur. Pour cela, nous allons faire quelques incursions dans le prophète Ézéchiel, et nous revenons au chapitre 16, parce qu'au chapitre 16, Jérusalem est vue sous l'emblème d'une femme qui, hélas, s'est prostituée. Mais enfin, elle est vue sous l'emblème d'une femme, et je rappelle le verset 14, et ta renommée se répandit parmi les nations à cause de ta beauté, car elle était parfaite grâce à l'éclat dont je t'avais ornée, dit le Seigneur l'Éternel. Elle était parfaite en beauté. Elle s'est prostituée en utilisant d'ailleurs sa magnifique parure d'or et d'argent que le Seigneur lui avait donné. Elle a pris ses vêtements brodés, et elle en a couvert des hommes qui ont été des simulacres d'hommes. Mais retenons ceci, c'est que cette femme, qui est un symbole, et qui représente Sion ou Jérusalem, le peuple de Jérusalem, c'est-à-dire le peuple de Juda, n'est-ce pas ? La capitale désigne le peuple juif. Alors elle était d'une grande beauté quand le Seigneur l'a fait naître et après qu'il l'eut purifiée. Alors, regardons dans ce même chapitre maintenant, au verset 52, toi qui condamnais, non, verset 46 d'abord, 46, ta grande sœur qui demeure à ta gauche, c'est Samarie, avec ses filles, et ta petite sœur qui demeure à ta droite, c'est Sodome avec ses filles. Vous voyez, l'image se poursuit et Jérusalem est considérée comme ayant une sœur, Samarie, qui est la capitale du royaume des 10 tribus. Une autre capitale, c'est tout de même le peuple d'Israël, n'est-ce pas? Et puis, Samarie a des filles, c'est-à-dire d'autres villes, d'autres tribus. Sodome aussi est une sœur, n'est-ce pas, qui a des filles. L'image se poursuit donc. 52. Toi qui condamnais tes sœurs, supporte ton opprobre à cause de tes péchés par lesquels tu t'es rendu plus abominable qu'elles et qui les font paraître plus justes que toi. Sois confuse et supporte ton opprobre puisque tu as justifié tes sœurs. Au verset 61. Tu te souviendras de ta conduite et tu en auras honte quand tu recevras tes sœurs, les grandes et les petites, je te les donnerai pour filles, mais non en vertu de ton alliance. C'est-à-dire, non pas en vertu d'un lien familial. Tu les recevras en vertu de ce que le Seigneur te les donnera. Et Ézéchiel, chapitre 23, verset 4. Alors là, nous avons encore deux sœurs qui malheureusement sont prostituées, c'est Samarie et Jérusalem. Nous avons vu qu'elles étaient vues comme deux sœurs. Alors, au verset 4, l'aînée s'appelait Ohola et sa sœur Oliba. Elles étaient à moi et elles ont enfanté des fils et des filles. Vous voyez, ces villes, ces peuples ont enfanté des fils et des filles. Ohola, c'est Samarie, Oliba, c'est Jérusalem. Eh bien, simplement, nous avons vu cela pour voir que dans le langage de ce prophète, et nous le retrouvons d'ailleurs un petit peu ailleurs dans la Bible, dans l'Ancien Testament, les sœurs, petites ou grandes, sont dans le ton, évidemment, des objurcations du prophète Ézéchiel, n'est-ce pas, qui les reprend vivement. Eh bien, dans le ton de ces objurcations, les sœurs sont Samarie, Sodome, ou d'autres villes, c'est-à-dire d'autres tribus, d'autres parties d'Israël, d'autres tribus du peuple d'Israël. Eh bien, dans le Cantique des Cantiques, la petite sœur, qui ne peut être que de même mère que la Sulamite, du moment qu'elle est une sœur, elle est de même mère, mais elle est aussi appelée la petite sœur, non seulement de la Sulamite, mais du bien-aimé. Car en effet, nous avons lu au verset 8, nous avons une petite sœur. Que ferons-nous de notre sœur? N'est-ce pas? Par conséquent, c'est la Sulamite qui parle. Eh bien, elle considère qu'elle elle et son bien-aimé ont ensemble une petite sœur. Ensemble. Ensemble, ils ont une petite sœur. Alors, cette petite sœur, c'est un peuple qui, en somme, vient des deux, appartient aux deux, est de même nature, si vous voulez, de même origine que les deux, de même origine que Sion, dont la Sulamite est originaire, et de même origine que le bien-aimé, qui lui, n'est-ce pas, est venu dans le peuple d'Israël, nous le savons, ayant pris place dans l'humanité et particulièrement dans le peuple d'Israël. Par conséquent, ensemble, n'est-ce pas, la Sulamite et son bien-aimé ont une petite sœur. La petite sœur est donc originaire de Sion, et si elle est aussi la petite sœur du bien-aimé, c'est qu'elle aussi a été réveillée par le berger d'Israël, celui qui s'est intégré au peuple d'Israël, le Messie. C'est donc qu'elle a été, elle aussi, réveillée, comme la Sulamite l'a été. Alors, ils ont ensemble une petite sœur, c'est-à-dire un peuple. Mais un peuple qui est encore tout jeune, tout enfant, tout petit, et pour l'instant, il n'est pas là, il ne compte pas. Il est dans le futur. Il est dans le futur. Que ferons-nous au futur de notre sœur le jour où on la recherchera? Cette petite sœur est donc vue dans le lointain des temps. C'est un peuple qui est enfanté, mais qui s'enfante, si vous voulez, qui est enfanté, qui est petit, qui ne joue encore aucun rôle, mais qui est vu dans le lointain des temps. Et si la Sulamite représente donc le peuple élu, elle est originaire de Sion, le peuple élu réveillé, parfaite en beauté, comme nous l'avons lu, n'est-ce pas, dans Ézéchiel 16-14, fiancée de son Seigneur, l'Éternel est ton époux, cela a été dit déjà pour le peuple d'Israël, l'Éternel est ton époux, eh bien, la petite sœur va représenter, par conséquent, une fraction, elle, une fraction du peuple élu à venir, qui est en train de se préparer, qui est en train de grandir, qu'on recherchera, un certain jour on le recherchera, on recherchera ce peuple. Et si la Sulamite est vue comme étant le peuple élu, Et bien entendu, le Cantique des Cantiques a d'abord été donné à Israël, n'est-ce pas ? Et les Juifs ne s'y sont pas trompés, je pense les Juifs de la synagogue, c'est-à-dire ce qu'on appelait la synagogue, c'était le groupe des Juifs vraiment pieux, eh bien ils ne s'y sont pas trompés, et ils ont bien compris que la Sulamite, la bien-aimée, figurait le peuple tel que Dieu le voit, tel que l'Éternel le voit, tel que l'Éternel entend le faire grandir, le réveiller, l'amener à une position de réveil, c'est-à-dire à une position hautement spirituelle, proche de lui, pour en faire son épouse. Alors, si la Sulamite, je répète, représente le peuple élu, la petite sœur, eh bien, qu'on recherchera un jour, c'est l'Église, l'Église qui est vue dans le lointain. Nous avons une petite sœur, c'est l'Église. Maintenant, si la Sulamite, et nous sommes maintenant dans le temps de l'Église, si la Sulamite représente le peuple de l'Église, et c'est surtout ce que nous avons vu, évidemment, en étudiant le Cantique. Alors, la petite sœur, qui va-t-elle être dans le lointain? La petite sœur est le reste du peuple d'Israël rassemblé à la fin des temps. Nous oublions souvent cela. De même que lorsque on allait vers l'époque où le Messie allait apparaître sur la terre, naître de femme à Bethléem, eh bien, un peuple était vu, n'est-ce pas ? Il y a même un psaume qui parle prophétiquement du peuple nouveau-né. Un peuple était vu, petite sœur allait venir, ça allait être l'Église qui, je l'ai dit, je crois, ce matin, avait, ou hier, l'Église qui a été formée par le peuple juif, qui pendant quelques années ne comprenait même que des juifs. Elle a été formée par une partie du peuple juif, elle est bien sortie du peuple juif, ensuite les païens y sont entrés, n'est-ce pas, ont eu part à l'Alliance nouvelle. Mais l'Alliance nouvelle, le Seigneur Jésus l'avait bien dit, est apportée aux brebis perdues de la maison d'Israël. À elle d'abord, c'est à elle que Jérémie avait apporté, annoncé que viendrait une nouvelle alliance. Alors, nous qui sommes dans l'Église maintenant, nous sommes fondés à voir dans la petite sœur le reste du peuple d'Israël. Et pour cela, il faut consulter l'Épître aux Romains, chapitre 11. Chapitre 11, verset 22. Lisons avec beaucoup d'attention. Chapitre 11, verset 22. Considère donc la bonté et la sévérité de Dieu. Sévérité envers ceux qui sont tombés, et bonté de Dieu envers toi, toi, le peuple païen qui vient d'être greffé sur l'olivier franc, n'est-ce pas ? Toi, toi qui n'étais pas des branches naturelles, tu es greffé, n'est-ce pas ? Alors, considère la bonté de Dieu envers toi, si tu demeures ferme dans cette bonté, autrement, tu seras aussi retranché. Eux de même, les juifs de même, s'ils ne persistent pas dans l'incrédulité, ils seront hantés ou greffés. Car Dieu est puissant pour les greffer de nouveau, les hanter de nouveau. Si toi qui as été coupé de l'olivier naturellement sauvage, c'est-à-dire toi qui étais du monde païen, c'est ça l'olivier sauvage, c'est le monde païen. Si toi qui as été coupé de l'olivier naturellement sauvage, et hanté et greffé, contrairement à ta nature, ta nature de païen, n'est-ce pas, sur l'olivier franc, c'est-à-dire sur le peuple juif, à plus forte raison, eux, les juifs, seront-ils greffés selon leur nature, sur leur propre olivier? car je ne veux pas, frère, que vous ignoriez ce mystère. Ce mystère, il y a là un mystère, mes amis, qui nous est révélé, afin que vous ne vous regardiez point comme sages, car c'est qu'une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement, jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée. Voyez-vous, une partie d'Israël est tombée, pas tout Israël. Il y a eu une autre partie d'Israël qui a formé l'Église. Ben, c'est bien une petite sœur. Ça a été une petite sœur qui a grandi maintenant, n'est-ce pas? Et alors, c'est qu'une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée. Et ainsi, tout Israël sera sauvé, selon qu'il est écrit, le libérateur viendra de Sion et il détournera de Jacob les impiétés. Et ce sera mon alliance avec eux lorsque j'ôterai leurs péchés. En ce qui concerne l'évangile, ils sont ennemis à cause de vous, mais en ce qui concerne l'élection, ils sont aimés à cause de leur Père, aimés de Dieu à cause de leur Père, car Dieu ne se repent pas de ses dons et de son appel. De même que vous avez autrefois désobéi à Dieu, et que par leur désobéissance, vous avez maintenant obtenu miséricorde, de même à la fin, voyez-vous. Vous avez été, vous, Église, autrefois la petite sœur qui a grandi, n'est-ce pas? Mais vous avez eu la même origine. Le salut vient des Juifs. Vous sortiez, l'Église sortait du peuple juif. Vous avez eu la même origine. Mais alors, attention, de même maintenant, il y a un renversement des choses. Un renversement, car de même, ils ont maintenant désobéi, afin que par la miséricorde qui vous a été faite, ils obtiennent aussi miséricorde. Voilà maintenant la partie, la fraction, le reste du peuple d'Israël qui va s'approcher, elle aussi, pour être à nouveau greffée sur son olivier, pour rentrer dans sa vocation, dans la même vocation. Car Dieu a renfermé tous les hommes dans la miséricorde, dans la désobéissance, pour faire miséricorde à tous. Ô profondeur de la richesse, de la sagesse et de la science de Dieu, que ses jugements sont insondables et ses voies incompréhensibles. Ça veut dire, ne t'avise pas toi de raisonner. Prends acte de cela par la foi et ne raisonne pas. Voilà ce que veut dire Paul. Car qui a connu la pensée du Seigneur, ou qui a été son conseiller, qui lui a donné le premier pour qu'il ait à recevoir en retour, c'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses, à lui la gloire dans tous les siècles. Amen. Alors, vous voyez qu'à la fin, n'est-ce pas, la fraction d'Israël qui a traversé les siècles, qui est allée dans la diaspora, qui a souffert tant et plus, eh bien, voici la fin des temps qui arrive. Et puis, voici cette fraction qui est vue de loin, l'apôtre Paul l'a même vue. Vous voyez, de son temps, puisqu'il en parle ainsi, n'est-ce pas? Alors, nous la voyons bien plus encore, nous la voyons s'approcher, cette fraction d'Israël, cette partie d'Israël qui a été incrédule autrefois, et qui a été dans la dispersion, et qui maintenant est rassemblée, n'est-ce pas? Eh bien, cette fraction d'Israël, c'est vis-à-vis de nous, maintenant, vis-à-vis de nous, qui sommes le peuple élu, le peuple de Dieu, le saint sacerdoce, la nation sainte. Nous avons maintenant reçu toutes ces qualifications-là, n'est-ce pas, dans l'Église. Alors maintenant, c'est nous qui sommes la sœur aînée, c'est nous qui sommes la Sulamite, et nous voyons une petite sœur qui se profile. Elle n'a pas encore de mamelles, elle est encore bien jeune, mais elle s'approche, et un jour viendra où on la recherchera. Lisons encore dans Ésaïe 62:12 pour voir comment et pourquoi on la recherchera, cette petite sœur-là, la fraction juive, n'est-ce pas, qui vient. Ésaïe 62:12. On les appellera peuple saint, racheté de l'Éternel, et toi, on t'appellera recherché, ville non délaissée. Tu seras recherché. Mais voyons dans Zacharie comment ce peuple sera recherché en effet, recherché de toutes les nations dans Zacharie chapitre 8 et verset 20. Ainsi parle l'Éternel des armées. Il viendra encore des peuples et des habitants d'un grand nombre de villes. Les habitants d'une ville iront à l'autre en disant « Allons implorer l'Éternel et chercher l'Éternel des armées. Nous irons aussi. » Et beaucoup de peuples et de nombreuses nations viendront chercher l'Éternel des armées à Jérusalem et implorer l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel des armées. En ces jours-là, 10 hommes de toutes les langues des nations saisiront un juif par le pan de son vêtement et diront « Nous irons avec vous, car nous avons appris que Dieu est avec vous. » Voyez, n'est-ce pas? Elle sera recherchée. Elle aura son temps où elle sera recherchée, cette petite sœur qui aura grandi. Alors, nous avons une petite sœur, que ferons-nous de notre sœur le jour où on la recherchera? Verset 9, si elle est un mur, nous bâtirons sur elle des créneaux d'argent. Ah, si elle est un mur, si elle est un mur, eh bien, et si elle est un mur, il faudra s'en réjouir. Elle sera comme une ville bien défendue par sa muraille, sans qu'il y ait de phare. C'est-à-dire qu'elle sera là la ville vraiment fidèle, dans laquelle on ne laisse entrer rien de souillé, rien d'impur. Elle sera vraiment sanctifiée. Si elle est un mur, pour être sanctifiée, il faut être séparé. Séparé par un mur, rien de souillé, rien d'impur ne rentrera. Nous ajouterons alors, si elle est un mur, si elle est ainsi, nous ajouterons même des créneaux d'argent. Vous savez que les créneaux, c'est une... dans le haut des murs, des murailles d'enceinte des villes d'autrefois, n'est-ce pas, ou dans le haut des tours, c'était des ouvrages de maçonnerie étaient présentaient des parties hautes et des parties plus basses, n'est-ce pas? C'était pour la défense de la ville. Ou bien alors, ce qu'on appelait créneau aussi, c'était ces ouvertures étroites, longues, qui étaient pratiquées dans les murs des tours en général, et ces ouvertures permettaient d'observer l'adversaire sans être atteint par lui, ou alors de tirer les flèches sur l'adversaire, n'est-ce pas, par là. C'est ce qu'on appelait des créneaux. Alors, si elle est bien fidèle, elle est cette ville dans laquelle il n'entre rien de souillé, rien d'impur, elle est sanctifiée. Oh, mais alors, nous participerons à ses défenses. Nous participerons, nous ajouterons encore des créneaux d'argent. L'argent évoque la fidélité attachée à cette humanité sanctifiée, n'est-ce pas? Fidélité de cette humanité, nous ajouterons, et nous voudrons que sa force soit invincible, qu'elle soit invincible dans cette position de ville sanctifiée, de peuple sanctifié. Mais si elle est une porte, nous la fermerons avec une planche de cèdre. On peut traduire aussi, nous la fermerons avec du cèdre. Bon, une seule planche avec sans doute plus d'une planche de cèdre. Si elle est une porte, nous la fermerons, nous parerons à toute ouverture qui serait favorable, éventuellement favorable à l'ennemi, afin que l'ennemi ne s'introduise jamais. Jamais. S'il y a une porte quelque part dans la muraille, vite, nous la fermerons avec des grosses planches de cèdre pour que l'ennemi ne puisse pas entrer par là et pénétrer, qu'il n'entre vraiment rien d'impur, rien de souillé. Lisons encore Ésaïe 62. Ésaïe 62, verset 6. Ésaïe 62, verset 6. Sur tes murs, Jérusalem, j'ai placé des gardes. Ils ne se tairont ni jour ni nuit. Vous qui la rappelez au souvenir de l'Éternel, point de repos pour vous. et ne lui laissez aucun relâche, jusqu'à ce qu'il établisse, il rétablisse Jérusalem et la rende glorieuse sur la terre. L'Éternel l'a juré par sa droite et par son bras puissant. Je ne donnerai plus ton blé pour nourriture à tes ennemis, et les fils de l'étranger ne boiront plus ton vin, produit de tes labeurs, mais ceux qui auront amassé le blé le mangeront et loueront l'Éternel, et ceux qui auront récolté le vin le boiront dans les parvis de mon sanctuaire. Alors, c'est la même idée qui est là, n'est-ce pas? Vous qui l'a rappelé au souvenir de l'Éternel, vous qui aimez cette ville, ce peuple qui va venir, et pour nous, Église, mes amis, si nous n'aimons pas le peuple d'Israël, je ne sais pas vraiment ce que nous avons dans le cœur. C'est très beau d'aller en Israël, de faire des voyages et de prendre des diapositives, n'est-ce pas? Oui, notre ami Mijot, il en a 100. Ben, mais très bien, c'est très intéressant, c'est très agréable de voir ça, on passe un beau moment. Mais c'est tout autre chose que cela que l'Éternel nous demande. Il nous demande d'aimer ce peuple. Car vous pouvez lire dans le Deutéronome, hein, tu es un peuple, tu es le moindre, le plus petit de tous les peuples, tu n'es pas le plus grand, tu n'es pas important, tu n'es pas conséquent, mais ce qu'il y a, c'est que l'Éternel t'aime, l'Éternel t'aime. Et nous avons lu l'autre jour que même si une femme abandonnait l'enfant qu'elle allait, l'Éternel, lui, n'abandonnerait pas son peuple. Alors, ce que nous avons, nous, c'est à voir cette petite sœur qui est en train de grandir et à désirer qu'elle atteigne à sa vocation, car sa vocation est celle d'un peuple absolument saint, d'un peuple mis à part. Parmi les nations, pour être à l'Éternel, pour être saint, il faut que ce peuple revête lui aussi cette beauté parfaite que nous avons lue tout à l'heure dans Ézéchiel 16. Alors nous qui en sommes là, rappelons au souvenir de l'Éternel, nous qui disons Seigneur Dieu, tu as écrit des choses pour ton peuple, pour la fin des temps, car ce passage est bien pour la fin des temps, n'est-ce pas? Tu as écrit des choses. Alors le prophète nous dit, ah, vous la rappelez au souvenir éternel, vous l'avez dans le cœur, ce peuple de la faim, ce peuple juif. Eh bien alors, n'ayez point de repos pour lui, et ne lui laissez aucun relâche, n'est-ce pas? Priez, priez, c'est une invitation à prier l'Éternel, à prier pour Israël. Et chers amis, on ne le fait pas cela, on ne le fait pas, et ça, nous pouvons nous humilier, nous accuser, nous ne prions pas pour le peuple d'Israël, on croirait que nous sommes absolument étrangers à tous les desseins de Dieu. Je vous assure, c'est révoltant de voir ça. On s'intéresse à l'extérieur des choses, des événements, mais on ne s'intéresse pas vraiment au cheminement dans des desseins de Dieu, au cheminement qui est la véritable œuvre de nature spirituelle, l'œuvre de l'Esprit de Dieu sur tous les temps, qui est d'accomplir ses desseins jusqu'au bout et de se former un peuple magnifique qui sera d'une beauté parfaite. L'Église n'est pas est en cause, bien sûr, et nous savons, n'est-ce pas, que bien des choses sont dites de l'Église, il faut qu'elle soit, elle, aussi répréhensible et sans tache, mais le Seigneur Jésus a bien dit, j'ai encore d'autres brebis, et ces brebis-là, il faut que je les rassemble, elles aussi, pour faire une seule bergerie, dans une seule bergerie. Et rappelons-nous ce que dit l'apôtre Paul dans Éphésiens 2, des deux, c'est-à-dire du peuple d'Israël et des païens, il n'en fait qu'un seul homme nouveau. Nous avons, chers amis, dans l'Église, complètement manqué à cela. Nous avons manqué, nous avons oublié cela. Nous l'avons laissé de côté. Et nous avons manqué à l'amour que nous devons à Dieu. Notre amour doit être, lui, guidé, conduit, dirigé par la parole de Dieu. Ou alors, nous prenons ce qui nous plaît dans la parole de Dieu. Et nous laissons aussi ce que nous ne comprenons pas. Cela n'est pas juste, chers amis. Je vous le dis devant le Seigneur, cela n'est pas juste. Et nous devons maintenant avoir à cœur, nous pensons à nous, nous pensons à l'Église, nous pensons aux païens qui doivent encore entrer, il faut que le dernier entre, oui, nous pensons à cela. Mais nous devons dans cette fin de temps penser à la petite sœur qui s'avance et qui se forme, à ce peuple qui va être rassemblé et greffé à nouveau sur son propre olivier, parce que c'est sa nature de l'être, et ce peuple va retrouver la vocation d'une nation sainte, pure, que l'Éternel lui avait donnée. Le verset 10, c'est la petite sœur qui d'avance répond à ces paroles prononcées par la Sulamite. Et la Sulamite avec son bien-aimé, puisque c'est au pluriel, nous avons une petite sœur, n'est-ce pas? Que ferons-nous? Nous bâtirons. Par conséquent, voyez là, il y a union parfaite, déjà, de la Sulamite et de son bien-aimé. La communion, là, est proche d'atteindre au jour des épousailles, dans la fin de ce cantique. Nous avons une petite sœur, nous, c'est très bien, n'est-ce pas? L'Église et son Seigneur. C'est magnifique, l'époux et l'épouse, Éphésiens 5, c'est le mystère de Christ et de l'Église, parfait. Mais attention, il y a un autre mystère aussi, un mystère qui lui aussi doit arriver à son aboutissement, une sorte d'éclosion, une sorte de consommation, lui aussi arriver à sa consommation pour rejoindre le dessein de Dieu. Alors la petite sœur dit de loin et par avance, je suis un mur. Ça veut dire, ce que je veux, c'est être un peuple saint, en effet, un peuple séparé, une nation qui n'admette en son sein, comme dans la cité céleste, rien de souillé, rien d'impur. Ceux-là seuls entreront qui auront été purifiés. Alors, par avance, cette petite sœur veut être un mur fermé à tout ce qui n'est pas saint, à tout ce qui n'est pas pur. Elle dit ensuite, mes saints sont comme des tours. Elle est petite encore, elle n'a pas encore de mamelles, cependant, elle sait qu'elle va avoir des seins, elle sait qu'elle est promise encore à la fécondité. Lisez la parole et vous verrez que le peuple d'Israël va encore porter des fruits sur toute la terre. Il va répandre ses fruits dans toutes les nations. Le peuple d'Israël va enfanter des fils et des filles encore. Alors, ces saints évoquent, comme ailleurs, la fécondité, et elle aura une postérité pour laquelle il n'y aura rien à redouter. Ces saints sont comme des tours, sa postérité jouira d'une défense inexpugnable, elle nourrira et elle gardera ses enfants comme une mère vaillante et fidèle, et personne ne pourra les atteindre. Et puis ensuite, j'ai été à ses yeux comme celle qui trouve la paix. À ses yeux, bien sûr, on peut se questionner d'une façon grammaticale pour savoir de qui, aux yeux de qui, elle a trouvé la paix. Eh bien, il ne peut s'agir que des yeux du Seigneur, bien sûr, n'est-ce pas? J'ai été à ses yeux comme celle qui trouve la paix. Et par conséquent, si elle est déjà, elle, la petite, celle que le Seigneur pacifie, celle à qui il donne la paix de Jérusalem, la paix est promise, en effet, à ce peuple qui va être rassemblé. Pour l'instant, tout est encore en enfantement, tout est encore dans le combat, disons, de la chair, de ce monde. Mais bientôt, le Seigneur va intervenir lui-même, et l'on verra que son but, son intention, c'est de faire du reste d'Israël, de ce peuple rassemblé de toutes les nations de la terre, un peuple fort, un peuple qui va jouir de la paix. La paix sera dans tes murs, ô Jérusalem. Elle aussi est une Sulamite féminin de Salomon, c'est-à-dire une pacifiée. Elle a reçu la paix. Au verset 11, Salomon avait une vigne à Baal, Hamon. Il remit la vigne à des gardiens, chacun apportait pour son fruit 1000 sicles d'argent. Salomon, il faut voir ici, non pas le Salomon de l'histoire, mais le grand Salomon, mais le bien-aimé lui-même. Il y a ici plus que Salomon, avait dit le Seigneur Jésus, c'est l'autre grand-fils annoncé à David qui s'assiera sur son trône et qui assurera au royaume de David des jours sans fin. C'est ce Salomon-là, ce fils-là, ce bien-aimé-là dont il est question ici. Alors, Salomon avait une vigne à Baal-Hamon. On ne sait pas très bien, j'ai cherché ce que pouvait signifier ce nom propre, de quel lieu il pouvait s'agir. Les dictionnaires n'en savent pas plus long que nous. C'est difficile, Baal-Hamon, on ne voit pas bien, il doit y avoir un sens. Baal, c'est maître, n'est-ce pas, maître, seigneur. Seigneur, mais Hamon, on ne voit pas bien. Ça pourrait être, peut-être, la vallée des voyageurs où l'on enterrera le peuple de Gog, c'est-à-dire, n'est-ce pas, ce peuple ennemi qui va se jeter, prétendre détruire Israël, se jeter sur lui. La multitude de Gog sera enterrée dans la vallée des voyageurs. Là figure, en effet, le mot de Hamon, Hamon-Gog, n'est-ce pas? Mais je ne sais pas si cela est absolument sûr, mais cela n'a aucune importance ici. Salomon avait une vigne, il remit la vigne à des gardiens, et chacun des vignerons, des gardiens, c'est-à-dire des vignerons qui l'exploitent, chacun des vignerons apporte le produit de la vigne, non plus comme dans la parabole de Matthieu 21-33. Dans la parabole de Matthieu 21-33, le Seigneur, là, parlait du peuple juif de l'histoire, n'est-ce pas? Il disait, écoutez une autre parabole, il y avait un homme maître de maison qui planta une vigne, il l'entoura d'une haie, il creusa un pressoir et bâtit une tour, puis il la ferma à des vignerons et quitta le pays. Lorsque le temps de la récolte fut arrivé, il envoya ses serviteurs vers les vignerons pour recevoir le produit de sa vigne. Les vignerons, s'étant saisis de ses serviteurs, battirent l'un, tuèrent l'autre et lapidèrent le troisième. C'est une allusion au prophète, ce que les sévices et les mauvais traitements et même les mises à mort qu'ont subi les prophètes. Il envoya encore d'autres serviteurs, en plus grand nombre que les premiers, et les vignerons les traitèrent de la même manière. Enfin, il envoya vers eux son fils, voyez comme c'est clair, en disant, ils auront du respect pour mon fils. Mais quand les vignerons virent le fils, ils dirent entre eux, voici l'héritier, venez, tuons-le, et emparons-nous de son héritage. Et ils se saisirent de lui, le jetèrent hors de la vigne et le tuèrent. Maintenant, lorsque le maître de la vigne viendra, que fera-t-il à ces vignerons? Ils lui répondirent, les juifs qui écoutent ça, lui répondirent, il fera périr misérablement ces misérables. Et il affermera la vigne à d'autres vignerons qui lui en donneront le produit au temps de la récolte. Jésus leur dit, n'avez-vous jamais lu dans les Écritures la pierre qu'on rejetait? Enfin, je m'arrête là, n'est-ce pas? Ils ont bien compris la parabole, n'est-ce pas? Et la leçon était pour eux, évidemment, les Juifs contemporains du Seigneur, ils leur rappelaient ce que leurs ancêtres avaient fait, et eux étaient les héritiers de leur père. Ils étaient comme leur père, le Seigneur le leur a dit. Eh bien, là, n'est-ce pas, ce sera tout l'inverse de cela. Au lieu que la vigne qui appartient à Salomon, qui appartient au Seigneur, qu'elle soit gérée par des vignerons qui en conservent indûment le fruit, au contraire, ils remettront chacun pour son fruit 1000 cycles d'argent, c'est-à-dire un très beau produit, un magnifique produit. Je n'ai pas pu calculer exactement, je n'ai pas eu le temps de calculer le poids que ça fait, mais enfin, ça fait un très beau produit. Et là, il y a donc de la fidélité à ce moment-là. Verset 12, « Ma vigne qui est à moi, je la garde. À toi, Salomon, les 1000 cycles, et 200 à ceux qui gardent le fruit. » Là, il y a un honnête partage, n'est-ce pas? « À toi, les 1000 cycles, et 200 cycles seulement à ceux qui gardent le fruit, ceux qui font fructifier la vigne, ils ont 200 cycles, mais le propriétaire de la vigne, celui à qui la vigne appartient, il a, lui, les 1000 cycles. La vigne à moi, je l'ai gardée. Ce n'est pas comme la Sulamite dans le chapitre 1er qui était obligée d'avouer « Je n'ai pas gardé ma vigne ». C'est-à-dire, à ce moment-là, je n'ai pas veillé sur moi-même, je n'ai pas gardé mon âme. Et alors, ma vigne, évidemment, les petits renards sont venus dedans, la briser, la détériorer, les ronces sont poussées. Je n'ai pas gardé ma vigne, je n'ai pas pu non plus garder la vigne des autres, puisque des fils de ma mère, je n'ai pas gardé la mienne. Tandis qu'ici, cette petite sœur dit, moi, j'ai une vigne, ma vigne qui est à moi, j'ai une vigne, mais je la garde, c'est-à-dire, je suis dans la fidélité, et ma fidélité sera entière, je veillerai sur moi-même, et je donnerai tout le fruit de ma vigne au roi, le fruit qui lui revient, je le donnerai au roi. Jérémie aussi parle du peuple d'Israël comme d'une vigne. Ésaïe, Jérémie, c'est constant dans l'Écriture, cela. Et puis, nous arrivons au verset 13. Habitante des jardins, des amis prêtent l'oreille à ta voix, daigne me la faire entendre. L'appel est beaucoup plus pressant que la traduction ici ne le laisse apparaître. Fais-nous entendre ta voix. Fais-nous, c'est une demande instante. Habitante des jardins. Eh bien, en effet, la petite sœur qui aura grandi et se sera manifestée en son temps, on la recherchera, disions-nous tout à l'heure, et non seulement on la recherchera, mais on ira la rechercher pour entendre sa voix. Entendre sa voix. Lisons dans Ésaïe 2, mais c'est pas loin, il n'y a pas grand chose à tourner. Ésaïe chapitre 2, verset 1er. Prophétie d'Ésaïe, fils d'Amoz, sur Juda et Jérusalem. Il arrivera dans la suite des temps. La suite des temps. Hein, quand la petite sœur sera grande, n'est-ce pas? Et qu'elle sera révélée et qu'on la recherchera. Dans la suite des temps. Que la montagne de la maison de l'Éternel sera fondée sur le sommet des montagnes, qu'elle s'élèvera par-dessus les collines, et que toutes les nations y afflueront. Des peuples s'y rendront en foule et diront, venez et montons à la montagne de l'Éternel, à la maison du Dieu de Jacob, afin qu'il nous enseigne ses voies et que nous marchions dans ses sentiers, car de Sion sortira la loi, et de Jérusalem, la parole de l'Éternel. Il sera le juge des nations, l'arbitre d'un grand nombre de peuples. De leurs glaives, ils forgeront des hoyaux, et de leurs lances, des serres. Une nation ne tirera plus l'épée contre une autre, et l'on n'apprendra plus la guerre. Eh bien, vous voyez, n'est-ce pas, que c'est prophétique, et c'est la fin des temps, précisément. Là où cette petite sœur qui a grandi se révèle, et vous voyez que l'on vient en effet pour entendre la voix du peuple de Jacob, de ce peuple, de cette sœur, de cette petite sœur, car de Jérusalem, de Sion sortira la loi, et de Jérusalem la parole de l'Éternel. On entendra à Jérusalem tous les Juifs qui seront là. N'est-ce pas, ce peuple rassemblé là à Jérusalem pendant le millénium, eh bien, on entendra sa parole, on viendra de toutes les nations boire la parole de l'Éternel qui sera annoncée par ce peuple, non pas une parole d'évangélisation comme aujourd'hui, n'est-ce pas, mais sera une parole de glorification, une parole qui glorifiera le Seigneur et qui dira la loi. Qui dira la loi? Car ce sera le temps aussi de la loi, n'est-ce pas? Le temps par du règne, par la verge de fer. Alors, habitante des jardins, toi qui étais au milieu des arbres, des fruits, des fleurs, alors, beaucoup d'amis veulent entendre prêter l'oreille à ta voix, habitante des jardins, C'est d'ailleurs une appellation qui convient à Jérusalem. Jérusalem, Sion, habitante des jardins, des amis, prête l'oreille à ta voix et fais-la entendre, fais entendre ta voix. Et nous arrivons au dernier verset, le verset 14. Fuis, mon bien-aimé, sois semblable à la gazelle ou au fond des biches sur les montagnes des aromates. La traduction est à modifier, il faut lire « Hâte-toi !» Et différent. « Hâte-toi, mon bien-aimé » Fuis, le verbe, n'est-ce pas, veut dire « va vite, va vite !» Mets-toi en marche, mets-toi en mouvement, d'une façon rapide, accélérée, va vite, va vite. Mais ce qui convient, la traduction dans une autre version, est celle-ci « Hâte-toi, mon bien-aimé !» Hâte-toi, mon bien-aimé, sois semblable à la gazelle ou au fond des biches sur les montagnes des aromates. Et nous voyons cette fin comme évidemment toute proche de celle par laquelle de celle qui termine la Bible, qui termine l'Apocalypse, au chapitre 22 et au verset 17, Et l'esprit, c'est le bien-aimé, et l'épouse, ensemble, voyez-vous, ils parlent ensemble, ils disent, viens, viens, hâte-toi, accours, et que celui qui entende dise, viens, et que celui qui a soif vienne, que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement. Et au verset 20, celui qui atteste ces choses dit, oui, je viens bientôt, amen, viens Seigneur Jésus, que la grâce du Seigneur Jésus soit avec vous tous, amen.